vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le gouvernement américain a annoncé son intention de ne pas aller à la COP30, la 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui s'ouvre aujourd'hui et se déroule jusqu'au 21 novembre à Belém, au Brésil. Entre janvier et juin 2025, les experts comptabilisent 101 milliards de dollars US de dégâts climatiques aux États-Unis en raison des événements météo extrêmes comme des incendies majeurs à Los Angeles, les tempêtes puissantes et des inondations. Ça, c'est des chiffres selon l'ONG Climate Central. Cela apporte à 3 000 milliards les coûts américains de tels événements depuis 1980. Les nombreuses coupures en science, notamment à l'Agence des océans et de l'atmosphère, la NOAA, dans les programmes, dans les postes et aussi l'indisponibilité des données climatiques, des données dont l'utilité dépasse les frontières américaines, place les citoyens américains dans le brouillard. Ils sont les premiers perdants de ces reculs pour l'environnement avec les impacts climatiques sur la qualité de l'air ou encore même économiques. Quelles seront les conséquences des politiques américaines récentes sur l'environnement? Pour le savoir, restez avec nous. Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'effet des nouvelles politiques américaines sur l'environnement, en commençant par les coupures dans la recherche sur les changements climatiques, jumelées à la hausse du déni climatique. Pour en parler, je suis en compagnie de Caroline Brouillette, directrice exécutive du réseau Action Climat Canada. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Bonjour, on est aussi en compagnie de Marie-Ève Carignan, professeure titulaire au département de communication de l'Université de Sherbrooke et co-titulaire de la chaire UNESCO-PREV, chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Bonjour.
Bonjour.
Et de Hugo Séguin, fellow au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal et conseiller principal à l'agence Copticom. C'est une firme de communication spécialisée dans l'accompagnement de projets sociaux et environnementaux. Bonjour.
Bonjour.
Donc, la 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se déroule actuellement à Belém, au Brésil. Trump n'y participera pas, ni aucun de ses hauts dirigeants. Ce n'est que l'un des nombreux reculs en matière d'environnement et de climat aux États-Unis. Les mesures d'adaptation climatique, tout comme les messages, sont plus souvent qu'avant contestées et niées sur les réseaux sociaux et aussi dans certains médias populaires. Je vais peut-être commencer avec vous, Madame Brouillette. Devons-nous nous féliciter que les États-Unis ne soient pas présents à la COP30 dans le contexte actuel?
Écoutez, c'est faut d'abord commencer avec les faits, c'est-à-dire que les États-Unis n'ont jamais été des partenaires très constructifs dans les négociations climatiques, que ça soit sous une administration démocrate, républicaine ou trumpiste, comme on le voit en ce moment. Donc, faut nommer évidemment l'impact de leur retrait de l'accord de Paris, qui est d'abord et avant tout sera ressenti chez les citoyens, citoyennes américains qui non seulement ressentent déjà les impacts des changements climatiques, mais seront privés des opportunités de la transition énergétique d'un point de vue économique. Cela dit, dans le contexte où on pourrait s'attendre à ce que des représentants de l'administration Trump tentent de saboter les choses, comme on les a vu faire, par exemple, à l'Organisation maritime internationale il y a quelques jours. Oui. Jusqu'à date, on entend que les États-Unis ne seront pas à la COP de Belém et c'est peut-être mieux qu'ils y soient en mode destruction massive.
Ah, oui, je vous comprends. Professeur Séguin, est-ce qu'on peut parler d'une guerre culturelle menée contre le climat? Et comment ça s'exprime, tout ça?
Oui, on peut vraiment parler d'une guerre culturelle qui s'exprime contre le climat, mais ça fait partie d'une guerre culturelle plus large où on essaie de créer des lignes de faille entre autour de ce qu'on a le droit de penser et de dire sur la place publique. C'est une technique utilisée par les Trumpistes, par les forces plus conservatrices à travers le monde. Et le climat n'y échappe pas. Le climat est considéré comme un enjeu woke, un enjeu gauchiste, un enjeu marxiste, où on démonise les porteurs de l'action climatique comme étant anti-américains, comme étant anti-croissance, anti-business. Et ça dénote que la politique aux États-Unis, elle s'est restructurée autour de l'identité. On fait partie d'un groupe. Ce groupe, il pense certaines choses et démonise d'autres groupes qui pensent autre chose. Et dans la technique de démonisation, dans une guerre culturelle, on attribue à certains groupes des enjeux dont ils sont porteurs, et on les démonise pour ça. Et c'est ce qu'on fait au niveau du climat.
C'est contre le climat, mais est-ce que c'est aussi plus largement contre les mouvements environnementaux?
Ben, c'est contre le climat, c'est contre les mouvements environnementaux, et ça va très loin. On voit, depuis l'arrivée du gouvernement ou de l'administration Trump, une chasse aux mots dans les sites Internet gouvernementaux, dans l'information scientifique donnée aux Américains. On part à la chasse systématique des expressions comme « climate change », mais aussi d'expressions comme « justice environnementale » qui a disparu, qui semble avoir disparu, selon le Union for Concerned Scientists, d'à peu près 800 sites américains au cours des 7 premiers mois de l'administration Trump. Donc, quand on parle de justice environnementale, on parle d'enjeux sociaux liés à l'environnement. Et on voit à quel point là, cette démonisation-là touche l'environnement, mais le social, ce qu'on considère comme le wokisme, c'est-à-dire notre capacité de considérer, de voir les structures d'inégalité et de pouvoir dans la société, ça c'est mis de côté, et c'est démonisé.
Oui. Professeur Carignan, vous êtes experte des discours. Comment les médias américains et aussi canadiens couvrent le sujet des changements climatiques actuellement?
C'est très difficile parce que, comme on le dit, il y a une démonisation qui est faite par les différents acteurs. Puis cette démonisation-là touche aussi la recherche, hein, parce que des termes qui sont interdits, comme M. Séguin le disait, c'est aussi dans la recherche. Donc, les chercheurs ne peuvent plus utiliser certains termes s'ils veulent être financés. Alors, les médias marchent sur des œufs. Comment parler? Parce qu'on ne veut pas non plus donner du crédit et du mérite à un discours qui est basé sur de la désinformation. Alors, il y a toutes sortes de techniques qui se mettent en place. Dernièrement, on a pu voir notamment des journalistes qui essaient de mettre en place ce qu'on va appeler la technique du sandwich de vérité, c'est-à-dire de rappeler un peu les faits puis la situation par rapport au changement climatique. Ensuite, rappeler les propos de Trump qui vont souvent contre la science, contre le consensus scientifique, contre les effets qu'on observe, et revenir ensuite avec d'autres observations plus scientifiques et avérées sur le climat pour essayer un peu de tempérer, parce que là, quand on rapporte les propos de Trump dans les médias, on est en train de aussi donner de la visibilité à un discours de désinformation qui va contre la science, qui va contre le consensus scientifique autour des effets, des dérèglements climatiques. Donc, pour les journalistes, c'est très difficile. Il faut donner écho à ce discours-là parce qu'il faut que les gens l'entendent puis puissent un peu déplorer certains propos qui sont anti-science et qui sont très problématiques pour l'avenir de la société, mais en même temps, comment couvrir ce discours-là sans le renforcer puis lui donner plus d'écho? C'est là tout l'équilibre précaire avec lequel les journalistes doivent conjuguer.
Oui. Il semble y avoir une absence de débat sur la réalité ou la véracité des changements climatiques. Sur quoi peut-on encore débattre, si on peut débattre?
Bien, les médias se sont entendus sur le fait qu'on ne devait plus présenter les changements climatiques comme un sujet de débat, parce que si on se rapporte à quelques années en arrière, on avait cette tendance à faire comme ce qu'un peu la déontologie journalistique commande, c'est-à-dire de toujours essayer d'avoir un équilibre dans les faits. Donc souvent, quand il y a un enjeu politique, bien, on va essayer de présenter le point de vue de différents partis. On va présenter des acteurs qui sont pour ou contre une proposition économique ou politique pour créer un certain équilibre. Dans le cas des changements climatiques, on a convenu à un moment que c'était pas constructif de faire ça puisqu'il y avait un consensus scientifique, c'est-à-dire qu'il y a un accord en général chez les scientifiques qui s'intéressent à la question climatique, où plusieurs études ont montré qu'environ 98 % des scientifiques qui sont spécialisés dans les questions liées à l'environnement, au climat, à la biodiversité, s'accordent sur le fait qu'il y a un changement climatique de nature anthropique. Donc, on ne doit plus présenter ça comme un débat, c'est un fait avéré. Et c'est là que la décision a été prise dans les médias. et qui est peut-être pas toujours compris dans le public puisque ça fait un moment qu'on a statué ça, donc on doit le rappeler qu'on présente plus ça comme un débat puisqu'il y a un clair consensus scientifique sur cette question-là. Là où maintenant on peut débattre, c'est est-ce que justement le gouvernement adopte les bonnes politiques face aux effets des changements climatiques? Est-ce que les solutions qu'on propose dans cette lutte-là sont les bonnes? Est-ce que les différents pays en font assez? Donc, il y a toutes sortes d'éléments sur lesquels on peut débattre et que les journalistes peuvent présenter comme un débat, mais c'est qu'à la base. Et c'est pourtant le discours de Trump qu'on a pu entendre dernièrement. Hein. Il y a pourtant un consensus très clair là, au sein de la science sur le fait qu'il y a clairement des dérèglements climatiques et il y a un impact de l'homme dans ces actions-là. C'est pour ça que les médias en débattaient plus. Mais c'est vrai que cette absence de débat-là chez les médias, en ce moment, est une source de désinformation très importante. Donc, dans les cercles, notamment, là, conspirationnistes ou chez les leaders qui partagent un peu un discours très près de Trump ou près de l'extrême droite, on voit qu'on reprend beaucoup cette absence de débat-là pour dire que c'est la preuve que les médias seraient dans un système finalement corrompu selon des gens qui ne croient pas nécessairement au dérèglement climatique.
Oui. Madame Brouillette, pensez-vous que les chercheurs et les chercheuses risquent de s'auto-censurer et de ne plus parler des changements climatiques?
Au Canada, on observe une autocensure importante, mais je vous dirais principalement, d'abord et avant tout, de la part des politiciens, politiciennes. Okay. C'est un peu la tendance qu'on appelle obéir d'avance, mm-hmm. mise de l'avant par Timothy Snyder, qui étudie le fascisme historiquement. Et ce qu'on voit, en fait, c'est des dirigeants comme le gouvernement Carney, d'ailleurs, avec le budget présenté et un plan climat que je qualifierais de squelettique au mieux. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vient finalement diluer notre agenda climatique afin de ne pas offenser le président Trump. Et on vient aussi perdre un important rôle et une importante opportunité d'éducation du public sur ces enjeux. Parce qu'en ce moment, d'un point de vue canadien, les gens sont naturellement soucieux des impacts économiques de la guerre tarifaire menée par le président Trump. C'est bien normal, mais il y a une opportunité d'explication des liens entre la nécessaire diversification de notre économie hors des énergies fossiles et de la diversification de notre économie hors des États-Unis. Et ça, malheureusement, on n'entend pas les politiciens le faire. Ce qu'on voit plutôt, c'est qu'ils finalement viennent démanteler une architecture de politique climatique presque en offrande finalement aux États-Unis.
Je vote pour la science est une émission produite par Science Presse. Visitez son site internet au sciencepresse.qc.ca. Ça donne accès à toutes nos émissions. Bonne écoute. Professeur Séguin, que nous apprend le phénomène Trump 2 sur la fragilité du lien entre science, politique et démocratie?
Quelle question vaste. Hein? Écoutez, on est peut-être de certaines générations qui ont toujours considéré la science comme un endroit où on peut faire consensus, un endroit mm-hmm. neutre sur lequel autour duquel on bâtit nos positions dans un combat démocratique. Moi, je m'inspire depuis longtemps d'un spécialiste de la cognition et de la linguistique, là, qui est George Lakoff. Lui, il y avait une belle formule qui disait « Quand les faits ne concordent pas avec nos valeurs ou à ce qu'on pense, ils ne nous atteignent pas. En fait, ils rebondissent sur nous. Mm-hmm. » Donc, les faits n'ont plus d'emprise sur nous. Ce qu'on voit avec Trump 2, c'est que la formule de Lakoff est intéressante parce qu'elle montre qu'on est indifférent ou qu'on pourrait être indifférent aux faits. Mm-hmm. Mais avec Trump 2 et dans ce contexte-là de démonisation, d'instrumentalisation de la science, de guerre culturelle, on ne se contente plus d'être indifférent. On attaque les porteurs de faits qui ne concordent plus avec nos valeurs, entre les valeurs et les faits. Les valeurs gagnent, les valeurs renforcent notre appartenance à des groupes identitaires qui se tapent sur la gueule dans l'arène politique aux États-Unis, mais au Québec et au Canada. Et c'est ça que ça transmet Trump 2. C'est-à-dire, en anglais, on dit la weaponization, l'utilisation guerrière de la science pour attaquer l'adversaire.
Oui. Professeur Carignon, est-ce que c'est possible de voir une hausse de l'autocensure quand on parle d'augmentation des risques d'inondation, par exemple, au lieu de changement climatique?
Mais très certainement. Vous venez de mentionner le fait qu'on voit une espèce de brouillage des frontières entre la science, le politique, l'économique, et c'est clair que la pression qui est mise sur les scientifiques, crainte de perte de financement, de perte de réputation, de conséquences sur leur vie, fait en sorte qu'ils doivent prendre des actions pour parfois s'auto-censurer. J'étais aux États-Unis en mars dernier pour participer au colloque de l'Association internationale de communication sur les risques et les crises, et je voyais déjà des collègues américains qui adoptaient des stratégies de contournement pour s'auto-censurer, pour essayer d'éviter les conséquences que ça pouvait avoir sur leur financement, sur leur engagement au sein de l'université. Donc, des collègues me disaient justement, comme vous le mentionnez, qu'ils allaient parler de risques élevés d'inondation et non plus de changement climatique, conséquences des changements climatiques, parce qu'ils avaient trop peur de l'effet de ce discours-là sur leur financement. Il y avait aussi beaucoup de pression de groupes qui sont de moins en moins, disons, muets, donc qui sont de plus en plus décomplexés, qui essaient de mettre de la pression, donc notamment des groupes religieux qui vont dire que si on a confiance dans la religion, on va avoir confiance que tout va bien aller de façon naturelle, qu'on ne doit pas intervenir sur l'environnement et qui peuvent être parfois très menaçants, certains groupes politiques également. Donc, il y a en ce moment un muselage qui est quand même très inquiétant du côté de la science et beaucoup de collègues expriment ce malaise-là. Dernièrement, on a organisé une conférence internationale ici au Québec et des collègues étaient très inquiets de « est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi si certains propos sont problématiques? Est-ce que je vais avoir des problèmes aux douanes? Est-ce que je risque de perdre mon poste? » Donc, on sent vraiment une détresse chez certains collègues scientifiques. Je l'ai vécu aussi quand je suis allée à Singapour il y a quelques temps où j'avais des collègues qui travaillent sur la désinformation. C'est un sujet qui est très difficile en ce moment et peu accepté aux États-Unis. Donc, il y a toujours cette crainte-là des conséquences de faire de la recherche. On voit que c'est quand même des frontières qui s'estompent et qui font en sorte qu'il y a une autocensure qui se met en place par mesure de protection, finalement.
Oui, oui. Madame Brouillette, est-ce que ce qui se passe chez nos voisins pourrait nous faire oublier nos attentes envers le Canada en matière d'adaptation climatique?
En matière d'adaptation, spécifiquement?
Oui, d'adaptation, d'investissement. Est-ce que...
Oui, ben, je dirais d'abord et avant tout en termes de d'atténuation, parce que c'est surtout là-dessus que la guerre de Trump et de ses alliés est menée, c'est-à-dire la nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça passe d'abord et avant tout par une transition hors des énergies fossiles qui sont à la source du réchauffement lui-même. Comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on voit déjà au Canada, c'est nos politiciens obéir d'avance et chuchoter, marcher sur la pointe des pieds autour des enjeux climatiques. C'est pertinent comme réflexion de se dire comment on rend notre économie plus compétitive dans un contexte où on a un partenaire commercial qui est extrêmement belligérant et dont on dépend grandement. Elle est pertinente, cette question-là, parce que partout dans le monde, on voit nos partenaires commerciaux, que ce soit la Chine ou l'Europe, investir massivement dans les énergies renouvelables, investir massivement dans les batteries, dans les véhicules électriques. Donc, cette question-là, elle est pertinente, mais elle ne justifie pas défaire tous les 10 ans de progrès en matière de politique climatique qu'on a vu. Et c'est ce qu'on a dans le budget, finalement. On va même pas mesurer nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, comment on sait qu'on prend la bonne destination sans carte? On aimerait que le gouvernement Carney nous donne la réponse.
Oui, oui, tout à fait. Professeur Séguin, comment le Canada peut-il résister au vent américain qui souffle contre l'environnement et le climat? J'ai toujours des belles questions pour vous.
Oui, c'est des questions très larges, mais moi je ramènerais le Québec aussi parce que dans le contexte canadien, là, les provinces ont vraiment un rôle important. Mais donc, la réponse pour le gouvernement canadien, je pense que Caroline Brouillette l'a bien signalé, on résiste difficilement. Et je renforce ce qu'elle dit, on obéit d'avance de peur de déplaire à l'ogre de l'autre côté de la frontière. Donc c'est la soumission au bullying, c'est la soumission d'avance à l'intimidation. Et malheureusement, je vois pas tellement de porte de sortie du côté du gouvernement fédéral dans le contexte actuel. Donc on est dans un contexte non seulement de gel des politiques climatiques, mais de démantèlement de quelques réglementations phares qui avaient été dictées, qui avaient été proposées par le gouvernement Trudeau précédent. C'est la même chose qu'on voit au niveau des provinces, notamment du Québec, qui, c'était déjà pas le gouvernement Legault, un gouvernement très climato-engagé, disons, climato-actif. On a vu avec l'arrivée de Donald Trump que ça a autorisé des ministres et le premier ministre et surtout son cabinet à mettre la pédale douce sur des enjeux climatiques, moins en parler, réduire ou tenter de réduire les délais aussi, comme au fédéral, pour l'approbation des grands projets industriels. Donc là, l'environnement passe à la trappe au Canada, au Québec, un peu partout, en réaction aux craintes qu'on a de perdre l'accès à notre plus grand marché économique. Mm-hmm. Oui. On avait dans nos discussions, on se questionnait sur l'impact des politiques trumpistes sur la science. Mm-hmm. J'aimerais ramener les décisions qui ont été prises cet été par le gouvernement Legault de mettre fin et de détruire sa stratégie de mobilisation climatique québécoise. Cette stratégie-là était basée sur trois piliers. Un baromètre qui nous permettait, sondage après sondage, chaque année, de voir où était rendue l'opinion publique sur les questions liées au climat. Le baromètre n'a pas vu son budget reconduit. Un média très important dans le paysage environnemental et climatique québécois, 1.5, il n'a pas vu non plus son financement reconduit. Et la communauté de pratique en communication climatique, qui regroupe plus de 1000 communicateurs, communicatrices climatiques à travers le Québec, il n'a pas non plus vu son financement reconduit. Oui. Je veux y voir aussi une attaque sur la science, sur la capacité des Québécois, des Québécoises de voir où on en est. Hein, c'est, mm-hmm. Le baromètre, c'est pas de la retard. Et la capacité de discuter d'enjeux climatiques sur la place publique. Je pense que c'est des gestes qui sont forts, qui sont trop forts, qui sont irresponsables et dont on ne peut parler.
Oui, tout à fait. Professeur Carignan, on a aussi une hausse du déni climatique.
Et il y a quelques semaines, la Chaire, justement, présentait nos données sur la désinformation climatique au ministère de l'Environnement provincial. Et ce qu'on disait justement, c'est, un, il faut garder en tête qu'il y a un appui massif aux mesures, donc il ne faut pas les couper, il faut continuer à investir puis à soutenir la population qui veut ça. Mais il y a quand même une montée de la désinformation climatique. C'est très clair, un discours très présent, notamment au Québec, qui se base sur la méfiance envers les institutions politiques, les institutions environnementales, les grands groupes de travail. Et on voit notamment chez les jeunes hommes une adhésion de plus en plus forte à ce discours de désinformation-là et qui est parfois lié avec aussi une idéologie de plus en plus campée politiquement vers l'extrême droite notamment. C'est extrêmement préoccupant. Il faut agir et pour agir, il faut financer notamment la recherche. Donc, je suis tout à fait d'accord avec mes collègues lorsqu'ils mentionnent là, qu'on a définancé massivement des initiatives qui étaient hyper importantes au Québec, comme le baromètre, comme justement des pratiques, là, des communautés de pratique et puis des médias spécialisés en environnement. Il va falloir réinvestir parce que même si on travaille dans la science pure sur comment contrer les effets des changements climatiques, il faut travailler aussi dans le volet social puis mieux comprendre les préoccupations de la population pour l'engager. Et là, on est en train complètement de perdre cette vue, tant aux États-Unis qu'au Québec.
Oui. Madame Brouillette, il ne faut pas oublier que la population canadienne, en général, adhère au consensus scientifique. Si on se met en mode solution, est-ce qu'on mise, par exemple, sur l'éducation?
Moi, je dirais d'abord et avant tout que les politiciens doivent reprendre leur rôle d'éducation du public et de nous faire rêver, de faire preuve de vision, vous savez, dirigée par sondage, d'abord et avant tout, et finalement parler de pipeline à chaque fois qu'on a une crise nationale, c'est plate. C'est pas juste nocif et dangereux pour notre santé, pour l'environnement, pour la planète. C'est franchement très, très décevant comme vision nationale. Donc, oui, éducation, mais je dois vous dire que les politiciens ont un rôle primordial à jouer là-dedans et comme c'est décevant de voir un premier ministre, Mark Carney, qui a un CV bien rempli sur l'intersection entre la finance et les changements climatiques et qui nous prive de ce rôle de porte-parole et d'éducation du public.
Oui. Professeur Sega, je vais finir avec vous sur les conseils, en fait, sur miser sur l'information auprès de la population et peut-être rappeler aux politiciens le rôle qu'ils doivent jouer dans tout ça.
Ben, écoutez, j'arrive dans ce débat-là en disant que la science n'est plus neutre. La science est un objet de combat. Alors, c'est pas la sensibilisation, c'est pas en lançant des faits sur les gens que les faits vont coller. Ça aurait pu fonctionner il y a quelques décennies, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Si on est dans une guerre culturelle, il faut la mener. Moi, je reprends ce que ma collègue Caroline Brouillette vient de dire. On a un écart entre le fort niveau de préoccupation et de désir d'action sur l'environnement et les changements climatiques de la part des Québécois et des Québécoises, de la part d'une majorité de Canadiens et de Canadiennes. Et il faut visibiliser sur la place publique ce fort niveau d'approbation. Et le visibiliser, je pense qu'on ne peut pas passer par autre chose qu'une plus grande mobilisation des forces sociales, environnementales, progressistes, à travers des campagnes plus musclées, à travers le retour à des mobilisations dans les rues, comme on l'a déjà vu avant la COVID. Mm-hmm. On essaie de repartir la machine. Je pense que ça va donner des fruits plus on en fait. Et surtout, de manifester du leadership sur la place publique, parce qu'on est dans une situation de guerre culturelle. Il faut la mener à travers des leaders.
On était en compagnie d'Hugo Séguin, fellow au Centre d'études de recherche internationale de l'Université de Montréal et conseiller principal à l'agence Copticom, de Marie-Ève Carignan, professeure titulaire au département de communication de l'Université de Sherbrooke et co-titulaire de la chaire UNESCO PREV, chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, et de Caroline Brouillette, directrice exécutive au réseau Action Climat Canada. Merci à tous les trois.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science. C'est une production de Science Presse avec Radio-VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robartcher, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la. Vous pouvez aussi suivre notre page sur le site de Science Presse. Je vous souhaite de passer une belle semaine à notre antenne.
Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique.